Jules de Sèvres-Davy est un petit gamin issu d'une famille très modeste, puisque ses parents sont agriculteurs, paysans, hein, on disait plutôt à l'époque, à côté de Rennes. On est en 1918, quand Jules va naître, et c'est le premier garçon de la fratrie, et forcément, il est destiné à assurer les suites de la ferme familiale. Sauf qu'il ne va pas se passer ça du tout, puisque à l'âge de 8 ans, son papa va lui demander d'aller chercher du bois pour mettre dans la cheminée. Et en défagotant un fagot de bois, il va se crever un œil. Et progressivement, ça va infecter l'autre œil. Et en l'espace de 2 ans, il va perdre la vue. Mais complètement. C'est-à-dire qu'il ne verra plus la lumière et le jour. C'est écran noir pour un gamin qui a 10 ans. Qu'aller à peine à l'école, puisque cette époque-là, on est après la Première Guerre mondiale. Voilà, on utilise d'abord les enfants pour aider aux travaux dans les champs. Sauf que, à l'âge de 8 ans et jusqu'à 10 ans, il va passer son temps dans un hôpital à Rennes pour être soigné, mais avec déjà l'information qu'il sera aveugle. Un drame absolu pour les parents. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un enfant aveugle, incapable d'assurer les travaux dans les champs? Et puis, il y a un drame forcément pour l'intéressé, parce que quand vous avez 8 ans et qu'on vous dit « dans 2 ans, tu verras plus rien », moi, j'entends encore mon grand-père nous raconter ça, et dire qu'il a vécu des heures très sombres, où il a pensé à mettre fin à ses jours. Parce que pour lui, ne plus voir le ciel, la lumière du jour, c'était forcément inconcevable, inconcevable. Et il est placé quelques années après, à son adolescence, à 10, 11, 12 ans, dans une école spécialisée à Nantes, qui s'appelle la Persagottière, et qui était un établissement géré par des bonnes sœurs et des curés, et qui accueillait les enfants aveugles et malvoyants. Et à ces enfants, on leur proposait 3 types de formations pour les rendre à peu près autonomes à un métier. Le premier métier proposé, c'était standardiste au télécom. Ce n'est pas la voie qu'a choisie mon grand-père. La deuxième voie, c'était rempaillage de chaises. C'est des gamins qui savent développer une précision dans le geste. La troisième voie, et c'est celle qu'a choisie mon grand-père, c'était la voie de la musique. Et les aveugles, à l'époque, les enfants aveugles, on leur apprenait à jouer du piano, à jouer de l'orgue, à jouer du violon, en même temps qu'on leur apprenait le braille pour apprendre à lire avec donc les doigts. Et lui, c'est la voie qu'il a choisie, Jules, et il s'est passionné pour la musique. Quelques années après, il est devenu organiste, il animait les messes dominicales, et il a voulu, en plus de la passion du piano, parce qu'il s'est intéressé à l'instrument en tant que tel. Il a voulu devenir accordeur. Et donc, il a fait un apprentissage chez un monsieur qui avait un tout petit magasin rue du Maréchal Joffre à Nantes, un monsieur qui s'appelait Monsieur Cerclé, qui était aveugle lui-même et qui était vendeur, facteur de piano. Il avait une toute petite échoppe qui faisait 5 mètres sur 5, où il y avait 3 harmoniums et 2 pianos, et puis un petit atelier. Et donc, Jules a fait son apprentissage là. Et ça nous amène jusqu'en 1942. Jules a donc 23 ans, un petit peu plus. Il va vers ses 24 ans, il est tout jeune. On est en pleine guerre. Et il va racheter la boutique de M. Cerclé. Et en juillet 1942, la maison Cerclé va devenir la maison de Sèvres-Davy. Personne ne sait comment il a réuni les fonds pour ça. Il y a des légendes, comme quoi il aurait promis à M. Cerclé de se marier avec sa fille. Ce qui est drôle, c'est qu'il signe le rachat du magasin en juillet 1942. Et en août 43, il se marie avec Marguerite, qui n'est pas la fille de M. Cerclé. Et c'est là aussi un élément incroyable de cette histoire, c'est que Marguerite, il l'avait vue. Puisque Marguerite était une petite fille rennaise qui, tous les dimanches, après la messe dominicale, allait rendre visite aux enfants hospitalisés. Et quand Jules de Sèvres-Davy était hospitalisé entre 8 et 10 ans, tous les dimanches, il recevait la visite d'une famille avec une petite Marguerite. Et 10 ans après, 15 ans après, quelques années après, en tout cas, ils se sont revus. Ils se sont mariés. Ce qui fait que c'est une anecdote incroyable parce que Jules ne manquait pas d'humour et d'autodérision. Et il disait, moi, j'ai une chance incroyable. C'est que, en fait, j'ai jamais vu vieillir ma femme. L'image qu'il a toujours gardée en mémoire, c'est l'image d'une petite gamine de 8 ans. Donc, c'est très beau.
Ouais.
C'est très beau. Pour se marier avec Marguerite en août, c'est que je pense qu'il avait déjà officialisé ça avant. Il semblerait qu'il ait demandé 3 francs 6 sous à sa famille et tout, mais c'était une famille de paysans qui avait pas d'économie. Voilà. Donc on ne sait pas. Mais ça, c'est fait. Et donc en juillet 1942, il crée son entreprise et il devient entrepreneur. Donc on est en pleine guerre. Donc, imaginez le culot du bonhomme. J'ai une fascination pour ce personnage et une admiration sans faille pour mon grand-père, mais faut se mettre à sa place. Il est handicapé, aveugle, et à l'époque, c'était pas facile. Hein. On est en pleine guerre, et il rachète, et il devient entrepreneur, alors qu'il n'est pas du tout issu d'un milieu d'entrepreneuriat. Et donc, quel culot, quelle audace, qualité que je lui reconnais et que j'admire chez lui. L'histoire de la maison de Save David démarre à ce moment-là.
J'ouvre juste une petite porte là sur la relation avec ce grand-père fondateur, parce que là, on entend beaucoup d'admiration, et chaque personne a ses zones d'ombre, quoi. C'est quoi finalement ce que vous avez décidé de mettre de côté ou ce qui ne correspondait pas à votre manière d'être ou manière de faire ?
J'identifie chez lui qui a été son gros défaut, c'est une incapacité à partager son entreprise. On fait un saut dans l'histoire parce qu'on dresse le bilan de son expérience qui aura été très très longue. Mais c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, il ne se sera jamais arrêté. Il est mort en 2009, donc durant sa 91e année, mais il habitait toujours au-dessus du magasin et c'est lui qui ouvrait les portes le matin et qui les fermait le soir. Mais quand vous avez 91 ans, forcément, vous n'êtes plus à la page. Et donc, vous rendez extrêmement fragile votre entreprise, plein de révolutions qu'il n'a pas pu comprendre, pas pu voir de par sa cécité. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de plan de succession, de plan de transmission. Et ça, oui, je pense que c'était probablement une grossière erreur, mais à sa décharge, c'était sa vie. Son magasin, son entreprise, c'était sa vie. C'était même sa renaissance, puisqu'il aurait presque pu mourir. Qu'est-ce qui l'a maintenu en vie ? C'est son magasin. Il n'avait que ça. Il ne savait faire que ça. Il vivait pour son magasin, il vivait au-dessus, il manageait tout, il a toujours tout fait. Et quand bien même, après, il y aura eu des tentatives de gérants, salariés, des oncles et des tantes, mon propre père, qui auront essayé de prendre la suite de l'entreprise. Ça n'aura jamais fonctionné, parce qu'il n'aura jamais laissé, il n'aura jamais ouvert le capital à d'autres. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Déjà, quand vous créez un truc, c'est déjà hyper dur de vous en défaire. Mais quand vous n'avez que ça, parce que vous êtes handicapé, et que ça a été votre vie, lui prendre son entreprise, ça aurait été le tuer. Et Dieu sait pourtant si j'en ai souffert, parce que moi, je suis arrivé après son décès. Inconsciemment, probablement, j'avais dû comprendre, contrairement à d'autres oncles et cousins qui ont essayé de reprendre l'entreprise du vivant de mon grand-père. Moi, bizarrement, je ne me l'explique pas, hein, c'est très probablement inconscient, mais ce n'est que quand il est mort que j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise familiale. Donc j'avais 40 ans.